11h26 minutes. Bienvenue dans Trudeau Landry. 25-226, c'est le numéro de texto pour nous joindre facilement en studio avec vos commentaires, ce que vous pensez de ce que vous entendez ici en ondes. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci d'être là. En passant, c'est la dernière édition régulière de Trudeau Landry aujourd'hui pour 2020. On vous rappelle que le 31 décembre, on va vous présenter une édition spéciale de Trudeau Landry. Avec Nico aussi, en passant, là, qui va être là avec une espèce de revue de l'année 2020. Puis, on va faire nos prédictions pour 2021 aussi. Qu'est-ce qu'on entrevoit pour l'année 2021? Donc, voilà, soyez là le 31 décembre prochain pour cette édition spéciale. Avez-vous commencé à regarder pas mal de films de Noël en pyjama en boucle depuis quelques jours? Avez-vous commencé ça un peu? Il y avait Le sapin à des boules cette semaine qui a passé à TVA. On commence un peu à être dans cette atmosphère-là. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on fait des fois pendant la période des fêtes. Par contre, d'écrire ça dans un espèce de mémo, parce que ça concerne le CHU de Québec, là, le CHU de Québec qui est le Centre hospitalier universitaire de Québec, veut racheter des vacances. Et on s'est adressé à des employés qui... qu'est-ce qu'il y a, Joe?
Ben, c'est qu'on a un invité qui est en ligne, Jérôme.
Hey, je m'excuse. Je partais, c'est une chire de demi-heure.
Non, mais parce que, tu sais, des fois, puis on se parle pas avant les blocs. Je me dis, OK, film de Noël. Oh, wow. Là, il va peut-être parler du film de Noël préféré de Donald Trump.
Ouais.
Dans Home Alone, mais... on voit Trump ou Biden. Comment qu'il va en arriver à Raphaël Jacob avec ça, tu sais?
Je l'avais oublié. Mais ça, dis-moi là directement, Joe, quand tu vois que je passe une chire d'une demi-heure.
Ça vaut la peine, dis-moi là. Cette fois, c'est...
Joe m'a regardé. Il sait que l'invité est là.
Raphaël, excuse-moi, Raphaël. J'avais oublié qu'on avait un invité. Je suis désolé.
T'as vraiment le tour de faire sentir un invité spécial pour que ça donne.
Tu sais comment je t'aime. En plus, on a booké ça ensemble hier soir, Raphaël. Je m'excuse.
Tu t'es demandé si t'étais en train de regarder tes films de Noël quand on s'est booké ça hier.
Peut-être.
Parce que ton attention était peut-être pas toute là. Okay, okay.
J'écoutais les Chargers.
Garde la Raiders. Je vais te faire plaisir.
Non, finis pas l'année de même.
Aïe, aïe, aïe. Raphaël, je suis content de te parler. Je veux que tu le saches.
C'est senti.
On est content que tu sois là avec nous en cette année très, très particulière. Puis, je l'avais oublié, mais on était censé faire une espèce de bilan 2020 ce matin. Ouais. Et tu vas nous parler donc de ce qui a marqué 2020. Je sais bien pas de quoi tu vas nous parler.
Écoute, je peux te parler de film de Noël si tu veux. T'as qu'à finir ton bloc pour toi. Non, écoute, je pense que c'est assez évident que pour à peu près tout le monde là, qui nous écoute, ça a été une année horrible. C'est vrai ici, c'est vrai dans bien des pays du monde. Je pense que c'est surtout vrai aux États-Unis parce que, évidemment, la pandémie, elle a frappé presque partout. La crise économique qui était liée à ça aussi a frappé presque partout. Mais aux États-Unis, ces crises-là, premièrement, ont frappé particulièrement fort. On le sait, le bilan de morts per capita aux États-Unis est un des plus élevés au monde depuis presque le tout début de la crise au printemps dernier. Ce qui est vrai également, c'est que la reprise économique, en fait, aux États-Unis, on en parle relativement peu, mais elle a quand même été plus musclée qu'à bien des endroits. Le problème, c'est que le gouvernement américain n'a pas été au rendez-vous pour ce qui est d'aider les gens qui étaient dans le besoin, beaucoup moins que dans la plupart des autres pays occidentaux. Et donc, cette crise économique-là, elle a vraiment frappé fort aux États-Unis pour bien du monde. On estime à pas loin de 10 millions de personnes, le nombre d'Américains qui sont tombés dans la pauvreté depuis les derniers mois, depuis l'été. Fait que c'est majeur. Et en plus de ça, aux États-Unis, ce qu'on a eu, mais ça a été une crise sociale qui s'est ajoutée à ça, évidemment, au milieu de l'année, après la mort de George Floyd, et puis une crise démocratique, celle qu'on voit, qu'on vit présentement dans le contexte de l'élection, des lendemains carrément désastreux là, d'un point de vue démocratique de l'élection présidentielle de novembre dernier. Fait que, t'sais, vous mettez ça ensemble, là, je vous mets au défi de me trouver un seul pays occidental moindrement comparable aux États-Unis qui a eu à passer à travers un tel cocktail toxique-là au courant des 12 derniers mois. Honnêtement, là, j'en connais.
Exact.
De façon un peu plus précise, là, si par exemple je te demandais c'est quoi ton moment marquant de l'année aux États-Unis, est-ce que de façon évidente c'est l'élection ou qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus?
Écoute, je serais en fait encore plus précis que ça. C'est pas juste l'élection, c'est la nuit électorale et encore plus spécifiquement ça que ça, le discours du président Trump pendant la nuit de l'élection, entre le 3 et le 4 novembre. Et voici pourquoi. On le sait, évidemment, aux 4 ans, on a des élections présidentielles aux États-Unis. Normalement, on a un candidat républicain, un candidat démocrate, un qui gagne, un qui perd, un qui donne un discours de concession, l'autre de victoire. Ça, c'est la façon de faire. Ce que le président des États-Unis a fait cette année, je vous dirais, au moment où on est censé, plus qu'à n'importe quel autre moment, célébrer la démocratie américaine, c'est-à-dire le soir de l'élection, oui. C'est de se servir de ce moment-là, de cette tribune-là, pour en fait y aller, je le dis carrément, là, d'une charge à fond de train contre les principes démocratiques, contre l'intégrité même du système électoral américain. Ça, c'est pas juste qu'on n'a pas vu ça à un autre moment comme ça en 2020, c'est qu'on n'a jamais vu ça de nos vies. Et ça a été une année, encore une fois, hyper difficile à plusieurs points de vue, mais même si on peut pleurer, on doit pleurer et déplorer les dizaines et les dizaines de milliers de morts à la COVID-19 aux États-Unis, tout comme on doit déplorer, on doit pleurer les millions de personnes qui ont perdu leurs emplois, leurs entreprises, leur carrière, leurs rêves, en fait, dans bien des cas, dans le contexte de la crise économique, mais sans minimiser quoi que ce soit là-dedans, la réalité, c'est que la démocratie, c'est censé durer plus longtemps qu'une vie humaine, okay. Plus longtemps qu'une carrière ou qu'une entreprise. Et la raison pour laquelle ça survit normalement, bien, c'est parce que d'une génération à l'autre, on la protège. Et là, cette année, ce qu'on a eu, à ce moment-là en particulier, le soir de l'élection, c'était l'homme qui était assermenté il y a 4 ans avec la mission, la tâche constitutionnelle précise de la protéger, de la chérir, cette démocratie-là, carrément y aller d'une attaque frontale contre elle. Fait que tu parles de moments marquants pour moi, pour toutes les mauvaises raisons inimaginables, là, c'est ça, carrément.
Moi, Raph, là, je vais te dire, ben, franchement, là, ma conclusion de 2020 sur Trump, je le trouve anti-américain. T'sais, je regardais son tweet, je sais pas si c'est ce matin ou hier soir, il s'en prenait à la Cour suprême en disant qu'il était donc ben déçu de la Cour suprême, puis que les Américains sont déçus de la Cour suprême. Ce gars-là se voit plus gros que des institutions comme la Cour suprême américaine. Puis ça, moi, je trouve ça anti-américain parce que les États-Unis, c'est un modèle, c'est le modèle de démocratie dans le monde pour moi.
Sais-tu ce qui est drôle, Jérôme, dans ce que tu dis, c'est que je pensais à ça littéralement cette semaine, puis je me disais, Donald Trump va avoir été le président le plus nationaliste et pour bien des gens, le plus patriotique, je le mets en guillemets, là, qu'on a vu là aussi de nos vivants. C'est tout le temps l'Amérique d'abord, il faut penser aux Américains d'abord et avant tout. Et en même temps, ça va avoir été le président qui va s'en être pris le plus agressivement, le plus activement à plusieurs des principes même fondateurs des États-Unis. À commencer justement par l'indépendance avec le judiciaire, l'indépendance en fait avec à peu près toutes les autres institutions qui ne sont pas gérées directement par sa petite personne. Il y a une espèce de, je sais pas si ironie c'est le bon mot, mais une espèce de contradiction hallucinante là-dedans, hallucinante. Et est-ce qu'il nous reste 2 minutes?
Oui, vas-y.
Parce qu'il y a quelque chose dont c'est, en fait, bon, je sais pas, je peux,
parce que vous savez comme moi, Jérôme, son autre sujet, il va attendre.
Sois bien à l'aise, Raph, okay? J'ai besoin de vacances, ok? Sois très à l'aise.
Je retire ma politesse puis ma question. Je vais prendre 2 minutes.
Oui, prends-le.
mais là, ça va être plus sérieux parce que c'est un sujet, en fait, dont on s'est pas vraiment parlé à l'émission puis, pour moi, c'est en fait un sujet dont à peu près personne, surtout de ce côté-ci de la frontière, a parlé dans les médias. Et c'est comme l'histoire majeure, la tragédie majeure, incomprise ou même tout simplement inconnue aux États-Unis 2020. Et c'est la fermeture prolongée des écoles. Puis là, je vous entends sûrement vous dire, ouais, mais ça, c'est pas juste aux États-Unis. C'est vrai que ce sont des dizaines de pays qui ont fermé leurs écoles publiques pendant des semaines ou des mois. Mais où les États-Unis sont différents, c'est que à peu près tous les autres cas, ces écoles-là ont rouvert. Ont rouvert en Europe, dans plusieurs pays, au printemps, ici aussi. Au début, évidemment, de la session d'automne, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, du début de l'année scolaire, pardon, à l'automne. Aux États-Unis, on a des endroits, et là, je parle pas de un ou deux petits bleds perdus, là, des juridictions majeures qui vont de San Francisco jusqu'à Washington, D.C., où les enfants américains ont pas d'accès à leur école depuis 9 mois. C'est hallucinant. Et je me permets aussi d'ajouter ceci. C'est pas juste qu'ils n'ont pas d'accès à l'école physique. C'est qu'on estime ça à entre 1 et 3 millions d'enfants qui n'ont plus aucune instruction parce que non seulement leur école est fermée, mais le virtuel, l'école, il n'y a pas de suivi en ligne virtuel qui est fait. Ils n'ont plus d'instruction depuis 9 mois. C'est censé être le pays le plus développé, le plus riche de la planète. Et c'est que c'est pas seulement une question d'instruction.
Mais comment ça se fait?
Ben, on va y venir dans un instant. Okay. Mais juste pour boucler la boucle, là, pour l'impact à court, moyen et long terme dévastateur que tout ça, ça va avoir, là, gardez en tête que les écoles publiques aux États-Unis, c'est pas juste un lieu d'instruction. C'est un lieu pour bien, en fait, je le disais bien des gens, pour des millions de jeunes Américains d'alimentation. C'est une source principale d'alimentation pour les jeunes qui viennent de milieux défavorisés. Tout ça c'est suspendu depuis 9 mois. C'est un lieu de protection pour les millions d'Américains, de jeunes Américains qui viennent aussi de milieux abusifs, violents, dans plusieurs cas malheureusement dangereux. Tout ça fermé depuis 9 mois. Fait que pourquoi est-ce que les États-Unis font cavalier seuls? C'est pas simplement parce que la pandémie a frappé plus fort, parce que la réalité c'est que il y a certains endroits aux États-Unis où, croyez-le ou non, là, ça vous montre comment, quand une fois on parle d'un pays développé, il y a des choses qui se justifient assez mal, là. Il y a des commerces qui sont restés ouverts, des restaurants, des bars qui sont restés ouverts dans certaines juridictions pendant que les écoles étaient fermées.
Ouais, puis je regarde, écoute, Raph, tu sais que je regarde beaucoup de sport aussi, tu sais, je regarde quand il y a des matchs en Floride, puis c'est beaucoup dans les États du Sud, t'as... Évidemment, les stades sont pas pleins comme à l'habitude, mais t'as quasiment une impression de normalité quand tu regardes certains événements dans certains États, alors que les enfants sont privés d'école. C'est assez spécial.
C'est ça. Et de ce que tout l'école implique. Fait que pour répondre à ta question de tantôt, Joe, comment on est arrivé là, la réponse est complexe, mais elle est profondément politique. C'est-à-dire que on s'enlignait vraiment au début de l'été passé pour rouvrir les écoles à l'automne comme à peu près partout ailleurs. Et Donald Trump, on va finir notre année évidemment sur le personnage qui va avoir monopolisé l'attention, est allé sauter dans ce qui était même pas un débat vraiment, cet enjeu-là à pieds joints, a mis de l'huile sur le feu, a interpellé tout le monde à ouvrir les écoles au PC en lettres majuscules sur Twitter. Fait, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Évidemment, ça a fait braquer ses adversaires politiques. Beaucoup de législateurs, de gouverneurs démocrates qui ont dit « wow, 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 on va pas donner raison au président, fait qu'on va garder les écoles fermées ». Et il y a une étude qui a été faite, c'est hallucinant ça aussi, qui montre que les fermetures d'écoles aux États-Unis, quand vous regardez la carte, c'est pas une question de l'évolution de la pandémie. Il y a pas de relation statistique en fait entre le nombre de cas recensés de la COVID-19 par habitant et la question de savoir si les écoles sont fermées ou non. C'est en fait la corrélation est entre le niveau d'appui politique à Donald Trump et le statut de fermeture ou d'ouverture des écoles. Fait que, tu sais, même une question aussi fondamentale qui devrait être aussi apolitique que est-ce que les enfants peuvent avoir accès à de l'instruction. Mm-hmm. Même ça, c'est rendu tribal, c'est rendu empoisonné aux États-Unis. Fait que, tu sais, ça va avoir été une année épouvantable et les conséquences de cette année-là, tragiquement, vont être carrément multigénérationnels. Ça prendra pas quelques mois avant qu'on s'en remette. Là. Et encore une fois, oui, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont avoir souffert de ce côté-ci de la frontière également. Mais je vous le dis, aux États-Unis, ça va avoir été une année particulièrement mémorable, encore une fois, pour les mauvaises raisons.
Juste en terminant, Raphaël, est-ce que je me trompe ou, à certains égards, Donald Trump a juste lui à blâmer pour ne pas avoir été réélu? Tu sais, je comprends l'acharnement des médias, mais si il n'avait qu'un temps soit peu essayé de moins tout le temps être focusé sur les mauvaises choses, etc., s'il avait bien géré la pandémie...
Un peu plus présidentiel.
S'il avait été un peu plus présidentiel, on regarde comment le résultat s'est soldé, puis je me dis, c'est sûr qu'il aurait été réélu. S'il avait fait juste quelques efforts, là, il aurait été réélu. Là.
S'il avait juste pas été lui-même, autrement dit. Mais pour vrai, c'est ça pareil, dans le sens où ce que tu décris, je pense que ça aurait exigé quelque chose de lui qui est juste pas là. Fait que oui, dans un sens théorique, je pense que tu as raison. En fait, quand tu regardes les résultats des élections, je devrais dire, ce qu'on voit, ce que Donald Trump a dit lui-même en privé après l'élection, c'est à ses conseillers, c'est, si, puis là, je le cite, je paraphrase, là, mais si j'ai bien compris, tous les républicains ont gagné, sauf moi. Puis tu sais, c'est un petit peu ça. Ça a été une super bonne année électorale pour son parti. Puis lui, il s'est fait battre alors que c'est le président sortant. Mmh. Fait que, autrement dit, c'était, je pense, d'abord et avant tout un référendum sur sa personne, sa façon de gérer, sa façon d'être président, et c'est un référendum clairement qu'il a perdu.
Raphaël, merci beaucoup. Vas-tu accepter de nous parler quand même en 2021, même si j'ai failli t'oublier tantôt? Es-tu correct? Ben, c'est-tu pardonné?
Je vais aller plus loin que ça, en fait. J'ai pas de speech préparé le pré-Noël, mais je vais quand même vous dire ceci. Premièrement, dire merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices. On le prend pour acquis souvent dans le monde de la radio parce qu'on ne les voit pas toujours. C'est pas comme donner des conférences ou donner des spectacles, mais c'est à cause de d'eux et elles qu'on peut continuer de faire ce qu'on aime. Fait que ça, c'est la première chose. Puis, deuxièmement, pas seulement vous dire que c'est un plaisir, mais vous dire que j'ai beaucoup de gratitude liée au fait que je fais partie de l'équipe. En tout cas, jusqu'à ce matin, je faisais partie de l'équipe. C'est sûr, je me sens moins comme ça maintenant. Mais je veux vraiment le dire sincèrement, tu sais, pour toutes les fois que je taquine Joe en onde, la réalité, c'est qu'il sait très bien que je l'apprécie énormément. Comme animateur, j'étais super emballé à l'idée de refaire affaire avec lui. Jérôme, on s'était parlé à quelques reprises maximum dans les années qui avaient précédé.
Oui.
Je me disais que ça serait le fun. Honnêtement, je n'étais pas sûr que ça le serait à ce point-là. Fait que,
ben, les auditeurs le sentent. Ils nous le disent à quel point ils aiment ça t'entendre. Puis la dynamique qu'on jase de politique et non pas juste qu'on fait faire un monologue.
On jase.
Je pense que c'est ça le secret aussi.
J'ai un objectif. OK, pour 2021, je te lance l'invitation très sincère. Je veux que tu viennes nous voir en studio en 2021 à Québec, au FM 93. Et j'espère que les circonstances vont nous permettre ça. Faut que tu viennes nous voir en studio dans la prochaine année.
Écoute, je vais te laisser sur ceci. Ça ferait longtemps que ça serait fait, justement, s'il n'y avait pas les circonstances actuelles. Donc, gonnons pour ça en 2021.
Joyeuse fête à toi, à tout ton entourage, ta famille, Raphaël, puis au plaisir de se reparler en janvier 2021.
Même chose, messieurs.
Salut.
Raphaël Jacob, donc notre collaborateur, ça a été une année 2020 extrêmement, extrêmement chargée, mais ça n'arrêtera pas en 2021. Est-ce que Joe Biden va être encore président le 31 décembre 2021?
Ah, ça va être dans mes prédictions du 31 décembre.
Beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent encore se passer dans les 12 prochains mois. C'est pas parce que Trump va quitter la Maison-Blanche le 20 janvier que tout va être... La vie ne deviendra pas un long... Oui, c'est très, très long.
On le sait, on l'a vu dans les 10 derniers mois, c'est très long.
Exactement ça. 11h42 minutes. Écoute, c'est dur de pas revenir un peu sur le sujet qu'on avait commencé à aborder. On peut le faire tantôt. T'as mieux qu'on fasse une pause? Tu veux qu'on fasse une pause? C'est vrai. Faudrait bien faire une pause.
On finira parce qu'il y a des choses à dire là-dessus.
Des choses à dire pas mal. C'est vrai. 11h43 minutes. Vous êtes dans Trudeau-Landry. On revient.